la vision du corps émotionnel, la vision du corps mental et sa vision du corps astral. Donc voilà, un, éthérique, émotionnel, mental, astral.
Elle voit les corps.
Elle voit les corps. Et donc, moi, une des raisons pour lesquelles je voulais vous montrer ça, c'est que souvent dans d'autres théories, et c'était un peu le cas ce matin, dans Vibrational Medicine, il parle des différents corps, et le corps émotionnel, beaucoup de gens l'appellent le corps astral. Et vous voyez comme ils se ressemblent tous les deux, comme ils sont proches l'un de l'autre. Et donc peut-être qu'il y a des confusions, que les gens ne savent pas trop. Voilà. Et donc voilà une image des corps. Le corps suivant, c'est le moule. Regardez comme il est beau. Ça, c'est notre moule.
Le bleu, là.
Oui. Notre moule, c'est vraiment à partir de là qu'on est. Le moule, il est bleu. Il transfère l'information au corps éthérique qui crée le corps physique. Chouette d'orgue. Magnifique. Moi, je trouve qu'on devrait avoir des images de ça tous dans son cabinet.
Oui. Oui.
Puis alors, les deux derniers corps sont ces deux-là. Le corps céleste et le moule éthérique.
Le corps céleste. Le corps céleste.
Il est beau aussi, hein.
Oui. Comment?
Mais elle appelle le haut sens, elle a un nom pour ça, mais j'ai oublié le sien, son nom. Le haut sens de perception, le HSP ou un truc comme ça, qu'elle a développé, qu'elle a fort développé, mais qu'elle avait déjà.
C'est bon.
Et je voulais vous montrer. Non, mais on reviendra au chakra après. Parce qu'il y a vraiment des images magnifiques. Regardez, voilà. Regardez ce qu'on fait dans le travail. Quand on travaille, quand on fait le nous universel ou quand on fait le.
C'est quoi les entités à côté là?
Bah, sont tes guides.
Ah oui, je vois même. Ok. Oui,
je peux vous faire passer.
Bien.
Je crois dans l'autre. Dans l'autre, il y en a ça.
L'autre, il s'appelle comment?
Il y a guérir par la lumière et le pouvoir bénéfique des mains. Ce ne sont plus du tout ces couvertures-là. Vraiment, le travail de Brennan complète très très fort le travail de Sips et d'AP, etc. Et vous avez, bon, il y a des différences évidemment, mais vous avez aussi plein d'informations super intéressantes sur les chakras, sur ceci, sur cela. Et par exemple, comment il s'appelle le médecin là mais j'ai le bouquin là-bas. Thierry Hansen, il a fait la formation avec Brennan, par exemple. Oui. Donc, ce sont des livres. Elle était physicienne à la NASA. Mais depuis toute petite, elle avait les capacités de voir. Et puis un jour, elle a abandonné son travail de physicienne pour développer l'art de la guérison. Donc voilà,
c'est pas mal.
Ouais, c'est
les cours de miracle, c'est elle aussi.
Non, ça c'est autre chose. Le cours en miracle, ça a été reçu par canalisation par une femme et travaillé avec, qui a écrit avec un homme, des gens, des scientifiques. Et dans le cours en miracle, en fait, ce serait Jésus qui est canalisé. Et le cours en miracle, c'est vraiment un bouquin extrêmement, je peux l'amener, c'est un gros bouquin comme ça, il y a la partie enseignant, la partie étudiant et une troisième partie, mais c'est vraiment dense, quoi. C'est pas évident à lire. Et il y a plein de gens qui ont simplifié quelque part le cours en miracle, parce que le cours, il est difficile. Moi, je suis plongée dedans depuis septembre maintenant, dans le cours humain, parce qu'avant j'avais fait plein d'autres choses, mais je trouve que c'est dense, c'est difficile. Et c'est la définition qu'ils donnent du cours en miracle, c'est un cours de psychothérapie spirituelle, je pense. Et c'est vrai que ça travaille tant au niveau du spirituel qu'au niveau de comment je vois la vie et donc comment je gère mes émotions, etc., etc. Donc le nom est bien porté. Maintenant, pour moi, pour aborder le cours en miracle et tout ce que ça apporte, il y a Marianne Williamson a écrit des bouquins dont le premier, c'est Un retour à l'amour qu'on trouve en J'ai lu. Qui est extraordinaire, je peux vous l'amener demain aussi ou tout à l'heure. Elle en a écrit un deuxième qui s'appelle Un retour à la prière, qui est la suite de son premier. Et puis alors, il y a Jean-Paul Ski, mais on ne les trouve plus, on ne les trouve plus d'occasion. Mais tous les bouquins de Jean-Paul Ski, je peux vous les amener demain aussi, parce que je les ai tous. Ils sont magnifiques de simplicité et de puissance.
Lui, il s'est basé sur...
Oh, lui, il est hyper simple.
Mais il s'est basé sur...
Et c'est courant miracle. Jean-Paul Ski, J-A-M-P-O-L-S-K-Y.
C'est son nom de famille, Jean-Paul Ski. Ouais. Je crois qu'il s'appelait Jean-Paul Ski. Non.
Gérald, Jerry, Jean-Paul Ski.
Attends,
viens. Mais je vous amènerai tous les bouquins. Ça va? Je vous les amènerai tous, parce que j'ai encore d'autres auteurs qui ont écrit sauf grand miracle. Je les mettrai pour une fois tous sur le bouquin. Comme ça, vous pouvez prendre votre temps. À côté de ça, puisqu'on est là-dedans, il y a le bouquin de... J'allais vous le dire demain parce que j'allais chercher plus d'infos. C'est impressionnant comme aujourd'hui l'EFT, ça fait... Il y a un congrès d'EFT, de 2 jours d'EFT en Hollande au mois de juin. Et il y a un gars qui est le copain de Bruce Lipton qui s'appelle Dawson Church qui vient faire 2 jours de cours d'EFT et autres à Bruxelles. Et d'épigénétique. Donc on est... Tout est là, on est vraiment dans cette énergie aujourd'hui dans le monde. Voilà, je voulais juste vous avertir, s'il y en a qui sont intéressés, je vous donnerai les informations. Et tant que j'y suis là, c'est ma pub personnelle, mais il y a un cours d'EFT et traumatisme qui sera donné à l'IBPA. Alors ce que je suis en train de me demander, comme il va y avoir, si j'annonce ce cours en dehors de l'IBPA, on va avoir des centaines de gens. Donc, je ne sais pas trop combien de personnes elle souhaite avoir. Marie-Louise qui vient avec son mari donner le cours. Et donc, soit on le réserve et on le garde au nom d'Ibeka et point, soit on fait un truc énorme, mais à ce moment-là, je voudrais que vous sachiez que les prix qui sont annoncés dans la brochure d'Ibeka sont les prix Ibeka. Et les autres prix vont être des prix nettement supérieurs. Si c'est ça qu'elle souhaite.
Et c'est quoi ?
EFT et traumatisme, 3 jours. Et donc voilà, l'EFT est tellement en train de...
Et ça c'est quand?
En octobre.
Octobre.
Ce sera annoncé dans la brochure. Il va y avoir, je ne sais pas trop.
Ça se dire déjà, si tu vois pas un truc suffisant. Tu...
Ah, si elle, de toute façon, les premières places, c'est pour les deux cas. De toute façon, ça c'est clair, je ne vais pas m'amuser à ouvrir à tout le monde juste pour mettre de l'argent dans ma poche.
Non, ça sera ici, pas. Je veux dire, parce que si tu as 100 personnes, tu vois trop
comme ça. À ce moment-là, je vais ailleurs. Oui. Mais je dois lui demander, je vais lui envoyer un email ce soir. Parce que quand je vois le nombre d'annonces d'EFT que je reçois sur ma... Alors, je ne suis même pas inscrite dans ces trucs-là. Voilà. Donc, je suis un peu mal à l'aise. Parce que je n'ai pas envie d'être... Ce n'est pas le même esprit, donc.
Et en fait, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'EFT, c'est bon aussi, ça.
Les 3 jours ?
Oui.
Non, il faut avoir fait le niveau 1.
Il faut avoir fait le niveau 1.
Mais bon, on reparlera de ça, mais c'est parce qu'on parle maintenant de l'épigénétique, Dawson Church, Lipton qui est en... C'est vraiment le gros truc aujourd'hui. Hein. C'est la mode, mais c'est aussi la pointe de la science. Il y a quelque temps, c'était les neurosciences. Aujourd'hui, on va beaucoup plus dans l'épigénétique, parce que les neurosciences, ils arrivent comme un... Mais nous, on travaille déjà avec tout ça, quoi. Alors, de toute façon, moi, je vais aller faire les tours de truc avec Dawson Church et je vous ramènerai toutes les infos. Mais s'il y en a qui veulent des infos, ils viennent avec moi, mais vous me dites et je vous les donnerai. Ça va? Ok. Alors, par rapport à CIPS 4, est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Donc, ce que je propose, c'est de continuer et on va avancer à partir de la page 23. J'ai déjà un tout petit peu parlé de ce point-là, le point de switching spirituel. Donc, vous voyez que c'est le point spirituel 20 léger avec le point de switching 10 léger. L'idée de switching spirituel ne vient pas de Yann, il vient de Lynn, qui était sa collaboratrice à l'époque. Et quelque part, en résumé, on va lire le texte, mais en résumé, on peut avoir un switching spirituel juste parce qu'on est dans une confusion. par exemple, Yann donnait un exemple en disant, voilà, un enfant à qui on dit je t'aime, et donc on lui dit, mais je suis dans un amour pour toi, et en même temps on lui donne une fessée, à quelques minutes d'intervalle. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gosse au niveau de l'amour et de cette ouverture du cœur, de cette ouverture au monde spirituel? Il peut être dans un conflit ou une confusion complète. Donc ça, c'est un exemple. Il y a très fort le lien aussi du switching spirituel avec ces états verrouillés et bloqués dont on parlait ce matin, qui sont l'équivalent des sabotages de type 3. Et il dit que quand le switching spirituel arrive, ça peut être par exemple dans des gros, dans des addictions, il peut intervenir et c'est souvent vu de l'extérieur, mais pas nécessairement ressenti par la personne, où elle a un comportement qui est complètement à l'opposé de sa nature innée. Ça, c'est une chose. Ou alors, un enfant, il dit dans la période vers 10-11 ans, on voit parfois des enfants qui changent complètement de caractère, d'attitude, etc. Et c'est comme si l'enfant perdait à ce moment-là la connexion avec sa nature essentielle et tournait le dos à cette nature essentielle, pour une raison ou pour une autre, des expériences difficiles dans sa vie. Et donc, quelque part, dans le switching spirituel, il y a deux formes de switching spirituel. Il y a celle qui vient comme ça, non consciemment, et puis il y a le choix conscient. On a beaucoup parlé hier de Hitler. Il y a à un moment donné peut-être un choix conscient de retourner sa veste à 180 degrés et de dire « moi, je vais à l'encontre de mon chemin ». Donc voilà. Et donc, si on lit rapidement les paragraphes dont parle Yann, il dit que ce switching semble avoir lieu quand les informations données à l'esprit nouvellement émergent sont tellement en conflit avec ce qu'on observe que l'esprit retourne sa veste à 180 degrés. Ça peut se passer chez un enfant en période préverbale. Et ça se manifeste sous la forme d'une confusion profonde dans la prise de conscience et le traitement mental de quelque chose. Alors ça correspond aussi au comportement dont une personne est totalement inconsciente, mais qui est souvent visible chez les autres. L'énergie chez certains clients donne une sensation inconfortable, comme un trou noir énergétique. Et donc c'est vraiment comme une énergie noire qui peut être présente. Parfois chez d'autres personnes, c'est simplement un blanc énergétique, comme si rien ne s'enregistrait. Il n'y a rien, il y a quelque chose qui manque chez cette personne. Et le soutien spirituel qui, lui, semble être une décision consciente de la part du client, c'est un peu moins drôle, évidemment. Mais on peut bien plus travailler dessus que le soutien qui semble être une décision de protection ou inconscience. C'est-à-dire que si à un moment donné, une personne a fait le choix, maintenant, je tourne le dos à la lumière, je vais vers l'obscurité, et qu'elle choisit de faire un travail sur elle-même, ben à ce moment-là, ce sera plus facile de travailler que chez une personne qui a mis ça en place pour se protéger, comme par exemple l'enfant qui a des messages contradictoires, amour, haine, peut-être, et qui lui fait ça pour se protéger. Et alors là, pour entrer en contact avec cette souffrance, c'est plus difficile.
Mais ça veut dire qu'on va inverser, rétablir.
On travaille toujours sur le stress. Donc le stress est mis là, et voilà, et on va gérer le stress. Et puis le chemin sera fait par la personne, on ne va pas aller inverser les choses. On travaille sur le stress. Quand le corps nous permet. Alors, le switching spirituel a lieu quand la personne dit ou fait dans sa vie des actions, moralement, socialement, énergétiquement, en contraste absolu avec son plus haut bien. Ça va? Bon, alors c'est pas parce qu'on tombe sur switching spirituel, sur ces deux points, qu'automatiquement c'est un truc dramatique, etc., etc. Ça peut juste être un truc de confusion. Ou dans un domaine de sa vie, la personne ne peut pas s'ouvrir simplement parce qu'elle doit se protéger, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de général. Mm-hmm. Ça va? Oui.
C'est aussi avec les 10 light touch, les 8 touch?
Tu peux le faire, mais alors si tu le fais, tu le fais en léger et en profond les deux points. Mm-hmm. Vous allez voir plus loin que je crois que c'est à partir du 5 ou du 6, du 5. En fait, n'importe quel point SIPS pourrait être testé en léger et en profond. Tous. Et tout point six pourrait aussi être testé à distance du corps. Mais ça multiplie les choses. Mais oui, tout principe, tu peux être testé, touché, profond, léger, à distance. Voilà, et où à distance? Dans quelle touche? On peut jouer beaucoup. Hein.
Il y a ça, on peut déduire ça en distance. En distance, on peut déduire et faire le lien avec ses corps de Brennan.
De Brennan et de Sips aussi. Peut-être.
On n'a pas de protocole particulier.
Pour le switching, je rentre le deux points en virage résistance. Si j'ai besoin d'infos, je vais scanner la page.
Mmh. Comment on en vient pour le switching
Non, 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 il n'y a pas un protocole switching. Ça va pour ça? Alors un jour, Yann était avec l'un de ses copains, Peter. Peter, c'est un gosse, enfin, il nous en parle dans d'autres cours. C'est un enfant qui a été adopté. Qu'il a su consciemment, ses parents lui ont toujours dit, mais consciemment, il n'a su qu'à l'âge de 30 ans. Donc il a. Mais avec cette sensation d'être différent, tout le reste de monde l'a permis, de ne pas se sentir bien, sans comprendre, et puis un jour, consciemment, il a entendu qu'il était adopté, alors que depuis tout petit, ses parents lui disaient. Et c'est un ami de Yann qui est super intelligent, mais qui est limite. Si je me souviens bien, c'est Smith schizophrène. Brillant. Et donc un jour, il est chez lui, je pars au week-end chez mon ami, il vit à la campagne, solitaire, très désorganisé, dans une maison sombre, et il me pose des tas de questions sur la kinésiologie. Et il testait mes connexions. Il pose des questions sur les voyages dans le temps, ils étaient partis dans Star Trek et tout, et tout, et tout. Et il dit... Finalement, quand on teste le test musculaire, on fait plus que juste pousser sur un bras quand je teste. Je me connecte à plus que les trois dimensions. Et donc, sur base de toute leur histoire, ils en sont arrivés à dire, mais en fait, quand on interroge un corps, il n'y a pas juste la hauteur, la longueur, la largeur et le temps, il y a bien plus de dimensions. Et quelles sont ces dimensions? Et sur base de ce truc-là, sont arrivés les 10 points qu'on va voir. Ça va? Et donc, c'est page 24. Le point stress de l'état dimensionnel provient de la sensation vraiment très forte que nous existons et que nous fonctionnons dans plus que les quatre dimensions. Nous n'existons pas seulement dans la dimension physique présente, mais aussi dans la dimension spirituelle. Et peut-être dans une dimension qui est concomitante dans le temps et l'espace. Les points suivants sont des noms, et ça c'est important à comprendre, des noms conceptuels, qui ont pour but de représenter certains aspects des autres dimensions dans lesquelles nous existons. Ce ne sont pas des noms qui vont vous dire, voilà, c'est telle catégorie, ou telle dimension, ou telle autre dimension. Mais ils sont plutôt descriptifs, pour donner référence à des aspects qui peuvent être au-delà de notre état dimensionnel. Le but de ces points est d'identifier le stress en relation avec les états d'énergie et d'information, qui ne serait pas reconnu autrement, dans ces autres dimensions. Et donc il a donné ses noms suivants aux dimensions, énergie créative, temps linéaire, état subatomique, temps négatif, espace négatif, foi, information, conscience, perception extrasensorielle, énergie universelle, gravité, conscience, lumière. Voilà les noms de ces 10 dimensions. Vous tournez la page, les points sont situés sur le front. Donc on a 5 points sur le front, 5 points en léger, 5 points en profond. Donc une manière de les tester, on va rentrer en précision de chaque point tout de suite, mais une manière de les tester, c'est de tester léger, profond, j'ai un changement profond, je le mets en circuit, et puis je vais voir lequel des 4, des 5, pardon. Ou alors je peux aussi m'amuser à tester léger, 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 profond, 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 profond. Ça va? La manière de tester n'a pas d'importance. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça va? Il dit même que vous pouvez les tester en double. Par exemple. Ça va? Et donc, on va maintenant, je vais vous donner une description, quelque part, de ces 10 points. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce que vous ne l'avez nulle part dans le bouquin. Donc, en léger, le premier, c'est l'énergie créative. Et il dit, quand j'ai créé ce point-là, le concept que j'avais en tête, c'était Dieu. Je regarde si j'ai vu un peu. Donc c'était son idée de départ. Et puis c'était pas le mot Dieu qui a dû venir, c'était le mot énergie créative dans le sens de l'énergie créative originelle.
Voilà, c'est ça.
Le point énergie créative.
Et donc, en fait, énergie créative, c'est en léger et en profond, le même point, c'est foi. Ça
le même point sera foi.
Ah, oui. Ok. Ouais.
Donc, il y a 10 points en tout. Je parle des 5 premiers qui sont en léger.
Énergie créative originelle.
Oui, c'est ça. Le deuxième point, temps linéaire, ben, c'est notre temps. C'est la dimension dans laquelle nous vivons. C'est référence à hier, aujourd'hui, demain. Si je vais trop vite, vous me le dites.
C'est temps linéaire, là,
temps linéaire.
Et pas c'est présent, futur aussi, quoi, notre échelle de temps.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc le premier, c'était son Dieu, c'était son monde d'origine. Et vous êtes venu ce concept de l'énergie créative originelle. Et le temps, c'est notre temps à nous. Le point état subatomique, là il y a beaucoup à dire. Donc ce sont les électrons qui peuvent être ondes ou particules en fonction du moment. C'est aussi, donc aussi, ça peut être aussi. Attendez avant de prendre note, je vous laisserai du temps. Vous savez, quand on parlait de l'atome hier, je vous disais que l'atome, c'est-à-dire le proton, le noyau et ses électrons étaient l'énergie électromagnétique, le vide était l'énergie magnétoélectrique, et donc ça pourrait être l'un de ces deux aspects de l'atome, ou même l'interaction entre ces deux aspects électromagnétique et magnétoélectrique de l'atome. Ça va? Je vous laisse noter. Vous avez compris? Oui, ça peut être l'interaction des deux en même temps. Donc, énergie électromagnétique de l'électron ou énergie magnétoélectrique du vide de l'atome ou l'interaction entre les deux. Aussi être n'importe quel élément subatomique peu connu comme les quarks ou d'autres, les protons,
oui, les bésons,
oui, tout ce qui est plus petit que l'atome, tout ce qui constitue l'atome et qui est plus petit que l'atome. Donc des parties de l'atome. Ça pourrait aussi être l'énergie de l'atome. Oui, t'as une question?
Oui, j'arrive pas à faire le lien entre les particules suivant le moment, si j'ai bien compris. Quel lien on peut faire avec matière, antimatière, électromagnétisme?
Pour l'instant, on est au niveau des particules subatomiques, donc on est dans la matière.
Oui.
Mais le subatomique, Tomique, tu sais bien l'électron, si je le regarde, il va être une particule, oui. Si je ne le regarde pas, il est onde. Oui. Mais cette onde est électromagnétique. Oh, l'électron lui-même, il est matière. Oui. C'est l'espace entre l'électron qui n'est pas matière.
D'accord, donc même si les ondes, on est toujours dans la matière.
Donc, il est toujours électromagnétique, c'est une onde électromagnétique. Ça va? Alors, le point suivant, c'est le temps négatif. Ben, c'est le temps dans l'espace-temps négatif. Hein, le temps, c'est-à-dire le non-temps. Parce que hier, aujourd'hui et demain, c'est le même moment. On ne peut pas le décrire, ce non-temps. C'est le temps de l'espace-temps négatif. Donc, c'est l'omni, tout est présent au même moment. Le présent, le passé, le futur, c'est maintenant. Dans ce temps négatif.
On parle de moi. Qui est encore présent comme si c'était actuel dans le cas.
Je crois pas. C'est vraiment plus le temps qui existe à des vitesses bien au-delà de la vitesse de la lumière. Mais en même temps, la mémoire, elle pourrait être présente dans le vide, donc oui, peut-être. Mais voilà, je ne vais pas m'engager là-dedans. Je ne peux pas te répondre. Alors, l'espace négatif, alors, il dit, nous existons dans l'espace positif, dans l'espace-temps négatif, il y a l'espace négatif. Il dit, c'est pas un endroit, l'espace négatif. C'est du vide, point d'interrogation. C'est ce qui était là avant le Big Bang, point d'interrogation. Mais le avant fait référence au temps. Donc, voilà. C'est l'espace négatif, et alors il dit aussi, c'est le quand je ne suis pas dans mon corps, quand je ne suis pas ici, je suis ailleurs, mais c'est où, le rêve, voilà, l'espace négatif. Donc voilà pour les légers. En prof... Oui.
Excuse-moi, est-ce que dans cet espace tout en négatif, certaines, psychologiques peuvent être atteintes quand tu dis je suis là sans être là quand...
C'est-à-dire que, par exemple, les états dimensionnels peuvent sortir chez une personne qui n'est pas vraiment présente, pas ancrée, tu vois. Ça revient un peu à tout ce qu'on dit depuis hier, mais une personne qui n'est pas tout à fait là, qui n'a pas envie d'être là, qui, tu sens qu'il flotte un peu comme ça, ces personnes-là peuvent être des personnes qui ont des stress dans une de ces dimensions. Oui. Maintenant, faire le lien plus direct comme tu viens de faire, peut-être pas.
Au fond, c'est-à-dire ça peut arriver à tout un chacun de, par moment, pas être tout à fait là. Quoi.
Oui.
C'est vraiment.
Mais ça, c'est le moment. Fait... Oui, bien sûr.
Mais ici aussi, aussi mais faire. Alors on peut rentrer là-dedans aussi.
Ou... Mais le corps t'y amènera. Ouais. S'il y a quelque chose comme ça.
Ok, il ne faut pas aller chercher plus loin, c'est ça ce que je veux dire.
Alors, en profond, le point foi, c'est la foi. C'est une dimension pour lui, ou le concept d'une dimension. Puis vous avez les capacités extrasensorielles. Donc c'est la clairvoyance, la clairaudience, l'intuition, la télépathie, etc.
C'est
PES. PES, oui.
Extrasensory perception.
Perception extrasensorielle.
On parle de clairaudience.
Oui, d'accord.
Clair, tout ce que tu veux comme sens, en fait.
Oui. Et dans ces perceptions, le point de perception extrasensorielle, c'est un point de perception d'information qui arrive de manière extrasensorielle. Vous vous souvenez, on a parlé d'information et énergie. Donc là, c'est centré sur les informations qui m'arrivent. Mais les personnes, il y en a ici qui ont déjà fait ou reçu la formation ou qui ont reçu des séances de psychophanie. En psychophanie, c'est ça qu'on développe, hein, c'est cette capacité de percevoir les messages qui viennent de l'autre, l'inconscient de l'autre personne. C'est le travail. Alors, le point suivant, l'énergie universelle, ben c'est l'énergie qui vient de partout. C'est l'énergie universelle, point, il n'y a pas à dire autre chose. Mais un peu plus loin dans mon cours, je ne sais plus où c'était, mais je vais vous dire maintenant, il y a cette énergie créative qu'il disait qu'il identifiait comme étant Dieu tout à l'heure. L'énergie universelle n'est qu'une partie de l'énergie créative.
Mais Dieu, enfin, dans la conception de Dieu, une énergie créative, une énergie, elle est déjà créée.
Ben, c'était la question tout à l'heure. Qu'est-ce qui a créé l'énergie créative?
Oui, c'est pas de créer. Dans le sens que Dieu, il est au-delà de créer, puisque si c'est dans le sens d'une énergie qui crée, elle est créée par quelque chose.
Par Dieu. Qui c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Alors, la gravité. gravité, c'est une dimension de, liée à cette force énorme qui agit sur nous. Et donc, c'est lié à l'enracinement, trop peu enraciné, ou trop peu attiré par les choses matérielles. Donc, c'est vraiment la dimension de la gravité telle qu'on l'entend.
C'est que métaphorique ou c'est aussi notre rapport au sujet ?
C'est aussi la gravité.
Oui,
ça peut être trop bas, c'est... Oui. Et le dernier, c'est gnose, c'est ça, parce que je suis dans
ma conscience.
Gnose, c'est ben, toute la conscience, toute la connaissance, toute la conscience intuitive, quoi, le savoir qui est là. Voilà. Gnose, c'est un mot qui existe qui veut dire la connaissance, mais dans le sens avec un grand C, ou le savoir avec un grand C. Et donc, vous vous souvenez, je vous avais dit, Alice Bellet, l'âme est dans le cœur et la conscience spirituelle entre les sourcils. Et donc, c'est là qu'il trouve ces fameux 10 points. Lui, fait un lien avec cela. Et aussi, ces points, il dit, vont surtout sortir chez des personnes qui sont hors de leur corps, ou qui ne sont pas vraiment là, ou qui ont des peurs profondément ancrées, donc de peur de vivre, peur d'être là, ou qui sont en plein questionnement avec d'autres vies, ou qui ne se sentent pas là, qui sont restés ailleurs, etc. Donc je peux imaginer, c'est toi qui parlais de voyage astral hier, je pourrais imaginer quelqu'un qui a fait un voyage astral et qui n'est pas vraiment revenu, on pourrait trouver des points comme ça, ou des choses comme ça. Tu avais posé la question, bien. Voilà. Ça se court un peu, un séminaire au niveau des concepts, non ? Il n'y en a pas qui ont trop de secousse au niveau de leur concept.
On est devenu ça, non, mais
aussi par rapport parfois à des concepts que moi j'apprends en méditation.
Oui.
C'est parfois c'est un peu fondement parce que c'est pas totalement la même
chose. Tout à fait. Ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que Yann exprime les choses d'une manière et que c'est clair qu'il y a des dizaines de manières de voir les choses. Et que si on se sent heurté par la manière dont je sais tout, c'est pas faux, c'est pas juste, c'est pas nous qui avons tort ou lui, ou raison l'inverse, c'est juste une manière de voir les choses par rapport à des tas d'autres manières de voir les choses. Et à ce point, prenons les choses comme ça, si le point sort, ben, on y donnera soi-même, si c'est sur soi, le sens que ça aura, ou on laissera notre client choisir le sens que ça aura pour lui. Je crois que c'est vrai que ça nous secoue parfois, ça nous pousse à aller peut-être plus loin dans nos réflexions sur la vie, mais en même temps, on est obligé d'adhérer à sa manière de voir, c'est pas la manière, la seule valable. Ça, c'est clair.
Mais en même temps, il y a des choses qui éclairent.
Oui, tout à fait.
Et qui se rejoignent.
Tout à fait. Bien. Et je trouve qu'avec ces points dimensionnels, on sent vraiment la manière dont Yann fonctionne. Parce que Yann, moi, on me dit, allez, on va chercher d'autres points dimensionnels, mais je me serais attendue à la dimension de ce style, la dimension de cela, et des structures très claires et tout. Mais non, pour lui, ce sont des concepts. Donc c'est très gestalt comme manière de voir les choses. Et c'est presque toujours comme ça que fonctionne. C'est chaque fois surprenant. Alors, on passe à la page 27, la peur du changement.
Ici, une procédure pour le
stress. Oui, mais la procédure, c'est juste je rentre, je cherche lequel, et je n'en suis plus en verrage résistance. Et si j'ai besoin d'informations, je cherche les infos, je re-rentre le point, c'est notre procédure habituelle.
Juste une précision,
yes.
Par rapport à la pratique de ta mère, tu ne les prends jamais dans ta bouche, les points. Pour les mettre dans le circuit, il faut vraiment bien les toucher. Tu peux les toucher, les prendre dans la bouche et les donner.
Ah, quand je peux, par exemple, j'ai deux points simultanés à toucher, je prends un puis deux,
oui.
Je peux les prendre dans ma bouche,
oui.
Dans mes jambes,
oui.
Et à un moment donné, ça oui. Oui. Le truc, c'est si j'ai des points simultanés,
oui.
Je dois tous les toucher en même temps, je ne peux pas en prendre certains dans ma bouche et toucher les autres.
Oui.
Ça, c'est du séquentiel, c'est pas du simultané.
Oui.
Ça va? D'expérience, c'est possible. La personne a deux mains, j'ai deux mains.
Oui, mais dans ce cas, les quatre mains sont occupées, tu peux plus tester. Et...
Là, les quatre mains touchent les points du côté gauche. Oh, je teste. C'est pas ça, les quatre mains touchent les points du côté droit. Comme ça.
Pour les arrêts, on les teste comme ça ou avec.
Oui, on peut faire les deux. Mais c'est plus rapide. Un, deux. Et puis quand j'ai trouvé lequel, je suis là. C'est plus rapide. Et il y en a un à la fois qui sort. Si vous avez besoin de deux, ben le corps vous dira plusieurs points. Vous trouverez le premier, vous trouverez le deuxième.
Et là, on peut aussi avoir les points en simultané ou bien en séquentiel.
Quel point?
Du front. On peut avoir en plusieurs fois, tous en même temps ou bien
si on, ben, c'est, ce sont 10 points différents, donc c'est comme un jeu
d'un point. Ah oui, oui, d'accord.
Alors, la peur du changement. La peur du changement, c'est souvent la peur de l'inconnu. C'est sortir de notre zone de confort. Et on a parfois vraiment des blocages à aller de l'avant, à changer, à avancer. Et c'est quelque chose qui peut vraiment nous mettre dans un état très, très inconfortable. À ce moment-là, on va procrastiner, par exemple, on va être au lendemain, etc. Et à vraiment, on peut vraiment rentrer, vous allez voir, on va voir plus loin un point qui va être le point de volonté. On peut vraiment avoir un conflit entre la peur et l'envie d'aller de l'avant, la volonté d'aller de l'avant. Et ce conflit peut s'exprimer par cette peur du changement. Ça va?
Quand tu dis sortir de ta zone de confort, c'est par peur sortir de ta zone d'inconfort. Qui est un certain confort. Parce que...
Oui, dans le sens que je ne suis pas bien comme je suis, mais je n'ose pas changer. Oui, tout à fait. Alors, le point suivant, sept de cœur avec ou sans 21 TL. Le sept de cœur, quand on l'avait vu en 6-2, c'est le point cerveau émotionnel reptilien. Ça va? Donc, seul, c'est le cerveau reptilien. Avec le 21 TR, c'est le cerveau reptilien et limbique ensemble. Ça va? Le mot terreur, peur profonde est associé à ces deux, à ce cerveau ou ce double cerveau. Pourquoi? Parce que c'est la toute première émotion engrangée dans ces cerveaux. Et Yann, je vais vous lire d'ailleurs sa phrase. Même le nom d'un point donne à ce point une direction, une définition de fonction. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, ce sept de cœur pour nous, c'était le cerveau émotionnel reptilien qui pouvait sortir tout seul. Mais si vous le scannez dans la liste de CIPS 4 sous le nom terreur, peur profonde, ça aura ce sens-là et pas seulement le sens de cerveau reptilien. Ça va? Et c'est vraiment la toute première réponse de automatique de survie. Et il dit, ce point est très utile quand nous avons à des peurs spirituelles incarnées profondes, impliquées dans la super conscience spirituelle émotionnelle en conflit avec la conscience consciente. Ça va, vous avez compris? La super conscience, c'est ce qui est au-delà de la conscience, au-dessus. Et qui a un conflit avec mon conscient, donc j'ai un conflit entre les deux là. Et c'est un point qui sort souvent lors de cauchemars ou de terreurs profondément enfouies dans le corps, par exemple. Ça va?
C'est très fort, en plus.
C'est froid. En général, c'est tout seul, mais parfois, c'est avec le 21. Et je l'ai eu l'autre chose dans la première démo. C'est sorti en
procédure. Liane,
la première démo, c'était clair.
T'as pas eu sur toi. Si, c'est Liane qui a eu ça.
C'est Liane qui l'a eu, je crois que c'était toi. Le sel de cœur et...
Non, c'est Liane, c'était le premier truc de Liane.
D'accord. Alors, ça veut dire quoi, là? Ah oui, la paille. La paille. Matière grise, berry à queue ducale. Je vais vous montrer le sel, comme ça, vous pourrez l'ouvrir dans votre tête. Péri à queue ducale. Donc ici, je suis dans le troisième ventricule du cerveau. Avec d'un côté et de l'autre, le thalamus, et entre les deux, il y a le troisième ventricule. Ça va ? Ça, c'est... Et donc, ici en bas, j'ai tous les noyaux, bon, vous ne l'avez peut-être pas vu, les deuxièmes et les troisièmes bien, tous les noyaux de l'hypothalamus. Et en fait, comme ça, l'épiphyse ici. Et en fait, la matière grise périaqueducale, c'est vraiment toute la matière grise qui se trouve le long de cet entonnoir et de ce qu'on appelait dans le temps, quand j'ai étudié la médecine, l'aqueduc de Sylvius, comme ceci. Et cette matière grise, on sait, ici c'est le quatrième ventricule, le troisième ventricule, l'adhérence interthalamique. Ici on a le cervelet qui est là. Eh bien, la matière grise périaqueducale, c'est toute cette matière grise-là. Et le rôle de la matière grise périaqueducale, c'est un petit peu... Là, vous ne savez pas que l'amygdale, pour ceux qui ne le savent pas, l'amygdale de notre cerveau limbique, c'est vraiment... joue vraiment un rôle de détection du stress, de comparaison des informations qui arrivent avec tout le vécu déjà, et de programmation de la réaction face au stress, face aux agressions qui peuvent arriver par les différents sens. Et la matière grise périaqueducale est comme une amygdale prolongée, donc joue un même type de rôle que l'amygdale, mais elle descend beaucoup plus bas, parce que l'amygdale, elle est ici, bon, je vous ai mal dessiné ça, ici vous avez l'lobe temporal, et l'amygdale, elle est localisée là. Et en fait, là, ça descend beaucoup plus bas. Donc, c'est quelque part plus au niveau du cerveau reptilien, la PAC, qu'au niveau du cerveau limbique où se trouve l'amygdale. Et donc, c'est vraiment le système de survie presque physiologique. Ça va ? Donc, voilà ce que c'est que la PAC. Alors... Je propose de voir encore le stress de transduction, le stress de l'aura, et peut-être on va voir le stress de transduction, puis on fera une pause, une démo et une pratique. Ça va ? D'une personne, et demain, maintenant, on fera la deuxième personne. On va ajouter des infos, on fera la deuxième. Alors, donc à la page 28, vous avez de nouveau le modèle basé sur celui de Brennan, où vous voyez que à chaque plan, à chaque corps, il y a un chakra qui correspond, ce qu'on avait vu hier. Et page 29, le champ énergétique humain est la manifestation d'un champ énergétique généré par la combinaison de l'énergie universelle, mais aussi par la combinaison de l'énergie cellulaire. Ça va ? Donc c'est la rencontre des deux qui fait ça. Il est appelé aura et est décrit sous la forme d'un corps lumineux. Il a plusieurs couches, on a vu tout ça. Chaque couche de l'aura entoure et interpénètre chacune des couches successives à des fréquences de plus en plus élevées. Les déséquilibres de l'aura ne reflètent pas seulement les déséquilibres ou maladies de notre corps physique, mais peuvent aussi indiquer un stress à niveau énergétique avant que n'apparaissent les symptômes dans le corps physique. Bien, le Modura, vous le connaissez. Vous allez à la page 30. Le point stress de l'aura. Alors, on a le Modura et on a un point stress de l'aura qui est le 24,2 VG. Vous vous souvenez, le 24 est là, 24,5 est là. Donc, le 24,2 est là. Point de l'aura.
Si c'est aussi un autre point qu'on avait vu.
On avait vu à 4 cunes. C'était pourquoi qu'on avait vu ça? C'était dans le haut ou l'autre, je ne sais plus.
Non,
voilà, l'incarnation. C'était un des deux. Et donc, quand vous avez trouvé ce point, si vous avez besoin d'informations, mais vous pouvez faire un challenge des différentes couches pour trouver la couche ou les couches endommagées. Et Barbara Brian, dans son bouquin dont on vient parler tout à l'heure, donne des définitions des couches de l'aura, des interprétations des couches de l'aura. Vous en aurez beaucoup plus dans son bouquin, mais vous voyez là que, par exemple, si je suis dans la première couche, c'est la couche de la sensation physique, douleur, plaisir. Deuxième couche, vie émotionnelle. Troisième couche, pensée linéaire. Quatrième couche, l'amour, le soi, le conjoint, l'humanité. Cinquième couche, la volonté supérieure, la volonté divine, le pouvoir du mot. Sixième couche, amour céleste, le corps céleste englobe toute vie au-delà de l'humain. Toute vie est une forme de Dieu. Et septième couche, connaissance supérieure, c'est l'intégration de nos connaissances, de nos composés spirituels et physiques. Si vous tournez la page 31, 32, vous avez encore d'autres expressions des différents corps auriques avec les énoncés faits par la conscience. Par exemple, le niveau physique, c'est je suis, j'existe. Niveau éthérique, je ressens émotionnellement, je pense pour le mental, j'aime pour l'astral, je veux pour la volonté supérieure, j'aime universellement, je sais, je suis.
La différence entre le mode aura et le stress aura.
Le mode, tu peux l'utiliser par exemple dans le mot universel ou dans d'autres situations, tandis que le point ne va sortir que comme point. C'est tout. Mais le mode peut sortir comme point. Quelle est la différence? Difficile à dire. Même Yann ne le dit pas. Il dit simplement le mode, il sert à définir quelque chose. Ou si vous avez envie, oui, là tu pourrais l'utiliser. Par exemple, j'ai rentré le point aura en circuit et puis je dois avoir des informations. À ce moment-là, je tiendrai le mode aura pour aller scanner les informations dans les couches de l'aura, par exemple. Tu vois?
Mais on le tient comme ça.
Le point tout seul. Et puis si j'ai besoin d'infos, j'irai scanner avec le mode aura dans l'aura. Ça va? Mais voilà. Donc pour lui, le mode va plus être sorti comme mode que comme point, puisque maintenant on a un point.
Dominique, si justement on est en circuit le 24,2 et qu'on se dit tiens, je vais prendre le mode aura parce que j'ai besoin d'infos. Est-ce qu'on peut se balader sur les chakras pour voir quelle couche a besoin d'un feu?
Oui, tu peux. Tout à fait.
Et sur ce qu'on a fait
hier. Tout à fait. Ah, ouais. Tout à fait. On va y venir d'ailleurs tout à l'heure.
Dominique?
Oui.
Quand on fait le circuit céleste, on travaille au niveau céleste, la sixième couche.
Ça n'a rien à voir. C'est parce que dans l'ésotérisme chinois, tu te souviens, il y a les cinq éléments, puis il y a péricarde, triple réchauffeur, qui sont le lien déjà vers le plus subtil, et puis tu as VCVG, et puis au-dessus, tu as le logos, Dieu, peu importe comment on l'appelle, ils n'appellent pas ça le logos, mais bon. Et donc, quelque part, VCVG, c'est juste avant le tout. C'est pour ça qu'on appelle ça circuit céleste.
C'est pas le temps. Ça n'a rien à voir, mais en même temps, il y a quand même quelque part.
Au niveau du nom.
Les deux. Non, mais au niveau de la situation, c'est.
Mais les cinq éléments sont la matière, avec les trois niveaux, 1, 2, 3. Et puis tu as les glandes, péricarde, triple réchauffeur, qui sont déjà plus subtiles. Et puis au-dessus, tu as VCVG, Oui. Donc, intestin grêle et cœur sont ici. Péricarde, triple réchauffeur sont là. Puis VC, VG là. Et puis, il y a peut-être encore un truc au-dessus. Et tout au-dessus, il y a l'équivalent de Dieu pour nous, mais je ne trouve plus le nom. Mais ça, je ne suis même pas sûre. Mais quelque part, ça, c'est vraiment le lien entre la matière et le spirituel, quelque part. Mais ce n'est pas nécessairement lié au sixième corps, spécifiquement. Ça va ? Alors, page 32, c'est super sympa aussi. Vous avez le processus créatif de la santé avec bon, les sept corps éthériques et le corps physique ou énergétique et le corps physique et ce qui se passe aux différents niveaux des différents corps. Donc, c'est encore des informations que vous pourriez scanner et trouver. Par exemple, supposons que vous tombiez corps astral, le germe humanité, vous pouvez demander à la personne de dire cette phrase, de montrer qu'il y a beaucoup de stress et après de la tester par exemple. Ça va ? Donc, plein d'informations à scanner par rapport aux différentes couches de l'aura. Ok. Page 33 d'abord, oui. Ça, c'est une... on trouve ça dans pas mal de bouquins sur les chakras. C'est une manière d'expliquer sur ce schéma-là comment l'énergie universelle est transduite pour pouvoir être utilisée par le corps physique. Et donc l'énergie universelle, en général, elle arrive, on dirait, à du 220 volts, ok ? Elle est captée par les chakras, et le chakra, c'est comme un transformateur qui va faire qu'elle va passer en 5 volts pour être utilisée par le corps. C'est un peu l'idée. Donc les chakras sont ses principaux transformateurs. Mais on en a plein d'autres qui sont les points d'acupuncture, mais il y a plein d'autres petits vortex partout. Et on voit que l'énergie qui sort des chakras rentre dans le système des nadis, mais on pourrait dire aussi dans le système des méridiens. C'est un modèle hindou, donc les méridiens n'existent pas, ce sont les nadis à la place. Et puis passe dans le système nerveux, système endocrinien, le sang et vers toutes les cellules du corps. Donc c'est un schéma qui expliquerait la transduction et le rôle des chakras de justement permettre d'avoir une énergie utilisable par le corps. Pourquoi on parle de ça maintenant ? Parce que on n'a pas un point chakra. On a un point stress de transduction. Parce que la transduction ne se fait pas que par les chakras, elle se fait par des tas d'autres endroits différents dans le corps. Le point stress de transduction, c'est le frein de la langue. Le 27 WC. Je réfléchis ça. On a le 24, je crois qu'on a le 25. Le 26, c'est le frein de la lèvre inférieure. Et le 27, le frein de la langue. Au-dessus, vous avez le 26, le 27 et le 28, qui est le frein de la lèvre supérieure. Ça va ? Sont des points qui sont moins connus. Et donc le 27 WC, frein de la langue. Une fois que vous avez trouvé le stress de transduction, qui peut être le stress de transduction de l'énergie universelle venant vers le corps, ou stress de transduction de l'énergie du corps retournant vers l'univers, ou stress de transduction même d'un endroit du corps à l'autre, ou de tout ça peut sortir sous cette forme stress de transduction. Parce que l'énergie qui arrive et qui est transduite à du 5 volts, elle doit être conservée dans le corps, et cette conservation peut aussi sortir dans ce stress-ci. C'est marqué dans votre bouquin, ça.
Tu dis
c'est
le 26, 27.
Ici, 24, 25, 26, 27. Frein de la lèvre, frein de la langue. Et au-dessus, c'est 26, 27, 28. Frein de la lèvre.
Il n'y a pas un 29.
Non. Au plancher, au plafond, non. C'est pouce au plancher. Pouce au palais.
Ici, c'est 24, 25.
24, je crois. 25, 26, Le 27, c'est vraiment au bas du frein de la langue. Ok. Donc, les plus gros transducteurs du corps sont les chakras. Donc, quand vous tombez sur le 27 VC, derrière ça, la première chose que vous allez tester, c'est le mode chakra. Et dans combien de pourcents, 99 ou 99,9% des cas, vous allez trouver que ce seront les chakras. Ça va? Mais ça peut être autre chose. Alors, comme il le dit, ça peut s'appliquer aussi aux atomes, aux cellules. On sait bien que les cellules se chargent de l'énergie universelle, aux méridiens, à certains points lacunes, aux nadis, etc. Donc, si vous regardez la procédure, quand vous tombez sur le stress de transduction, vous le rentrez en circuit de points, et puis vous allez voir les différents modes pour voir quel est le... Je vais vous donner cette marque. Le mode méridien, c'est le mode. Pour lui, le mode méridien, c'est le mode électrique. Ça va?
Et le mode nadi?
Alors, le mode nadi, vous l'avez dans la liste.
C'est la même chose.
Non, c'est l'ongle du doigt structurel au milieu de l'ongle du pouce. Moi, je parle de nadi, là. Je reviens au méridien. Donc, vous avez aura, comme ça, nadi, comme ça, l'inverse. Ongle du doigt structurel au milieu de l'ongle du pouce. Non, pardon, au milieu de l'ongle du pouce. Attends, je suis switch, il faudrait que je voie. Mais oui, je reviens. Laissez-moi juste voir, je vous ai dit. Voilà, chakra. Nadi. Chakra, nadi. Nadi, c'est l'ongle. Sur l'ongle du pouce. L'ongle de l'index sur l'ongle du pouce. Chakra, c'est le coussinet de l'index sur l'ongle du pouce. Ça va? Chakra, nadi. On va. Alors, le mode méridien pour Yann. C'est le mode électrique. Mais maintenant, par exemple, en chinois, on a le mode méridien qui est celui-ci, qui est touché bilatéral des paupières. Alors, ça peut être méridien, mais ça aussi, ça pourrait être. Vous pourriez utiliser le mode point lacune, hein, qui est touché moyen au niveau de AQ. C'est ni 5 ni 7 éléments, c'est juste touché moyen. C'est point lacune. C'est aussi un mode que vous pouvez utiliser pour les méridiens.
À qui ce
sera
deuxième
phalange.
Et quand
tu dis méridien,
c'est
tout
le dessin des manches
en acupressure, c'est ça? J'ai pas compris ta question. Non, je vois pas
le mode acupressure.
Le mode acupressure, c'est ça. Mode acupressure. Alors, je vais expliquer. On va voir de toute façon les nadis, le poids des nadis plus tard, mais un nadi, c'est l'équivalent des méridiens, mais dans le système hindou. Donc c'est un ensemble, tu as 14, tu as 3 nadis vraiment majeurs, puis tu en as 14, dont ces 3 qui sont les chakras, les nadis principaux, et puis tu as les nadis moins importants, et tout comme nous on apprend les 14 principaux méridiens, puis il y a des tas d'autres méridiens. C'est une autre vision des choses.
Peut-être qu'ils ne sont pas à la même place.
Pas tout à fait, mais tous les nadis se rassemblent au niveau des chakras. J'ai entendu parler de Ida Pingala et Sushumna, qui sont les 3 grands nadis, qui sont l'équivalent chez les Chinois de VCVG. Et on va en parler, on va y arriver. C'est une autre vision des choses, donc avec une fréquence un peu différente. Mais voilà. Mais c'est très proche, c'est leur vision des méridiens.
Alors, excuse-moi, quand on fait le mode méridien, on appuie chaque élément là dans le.
Oui.
On va voir quel point on appuie.
Ah, alors si j'ai besoin d'infos, je vais voir, bien sûr.
Quel méridien?
Quel méridien? Si je tombe sur chakra, quel chakra, etc.
C'est ça.
Mais
je vais.
Oui, excuse-moi.
La deuxième articulation, l'articulation distale.
L'articulation
Donc, distale, articulation distale.
Mais c'est l'ongle dessus, bien c'est le coussinet.
C'est le coussinet. L'ongle, c'est l'élément inversé, cinq éléments inversés. Bon, je vais pas, j'en ai plus pour longtemps. Pour me laisser terminer juste ce que je veux voir. On continuera à voir beaucoup de choses sur les chakras demain parce qu'il y a énormément d'informations qui suivent. Mais donc, vous avez entre les pages 35 et les pages 43, vous avez que des infos sur les chakras. Alors, il y en a plein. Vous avez à la page 37 deux types de chakras, les chakras majeurs et les chakras mineurs. Parce que ça peut être un stress de transduction dans un chakra mineur. Et il y a 21 chakras mineurs. Alors, vous ne les aurez pas tous sur le schéma, donc je voudrais juste voir le schéma. Vous en avez un que vous ne voyez pas, il y a un chakra qui se trouve derrière, un chakra mineur derrière les yeux. Donc il n'est pas dessiné, vous ne le voyez pas. Derrière, au fond de chaque œil, oui. Puis les deux autres que vous voyez là, c'est devant l'oreille. Ils paraissent sur la joue, mais en fait c'est devant l'oreille qu'ils sont. Ça va? Puis vous avez un chakra qui est vraiment à la rencontre des clavicules là. Puis un peu plus bas, un chakra qui est le chakra lié au thymus. C'est pas le chakra du cœur, c'est le chakra thymique, c'est un chakra plus direct. Puis les deux points là, c'est en fait des chakras qui sont sous les seins. Oui, je sais, ça fait bizarre. Hein.
C'est sous les seins, sont les deux en dessous du thymus.
Ouais. Puis en dessous du celui qui est du sein droit, vous avez un autre point plus bas, c'est le chakra du foie. À droite, donc à gauche sur le dessin. À gauche sur le dessin, sous le chakra, sous le sein, vous avez un chakra du foie. À droite, vous en avez deux. À gauche, vous en avez deux, là. Deux chakras d'arate. Tic-tic. Les deux petits points ici, c'est chakra d'arate. Les deux, oui.
Les deux verticales.
Oui.
Oui, verticales.
Oui. Alors, il y en a un des... J'y suis pas encore. Alors, celui qui est tout seul ici, c'est un chakra second du plexus solaire. Celui-ci.
Celui qui est au-dessus ?
Au milieu ?
Au-dessus. Et puis vous avez deux de la rate et de l'autre côté le foie. Et à l'horizontale, entre le deuxième de la rate et le foie, vous avez un chakra qui est l'estomac. Puis vous avez en bas les gonades, derrière les genoux, sous les pieds, et puis vous avez les chakras des paumes des mains. Vous voyez ça? Donc voilà. De nouveau, tout le monde n'est pas d'accord pour les chakras mineurs. Hein. Il y en a plein d'autres. Quoi?
Derrière les genoux, sous les pieds, c'est quoi?
Ce sont des chakras, le chakra du genou, le chakra des pieds. Mais par exemple, il y a aussi des chakras au niveau de toutes les articulations. Hein. Tu peux avoir un chakra là, on en a un là. Voilà.
Et ici,
c'est
les marnages.
Oui.
Et là, il y en a 107.
Voilà. Et encore.
L'avantage, c'est de pouvoir les mettre en circuit, de localiser simplement.
Mais tu les places. Mais si moi, je sais, je tourne sur un chakra qui n'est pas majeur, et je dois trouver un chakra mineur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais scanner le corps dans son ensemble, puis quand j'arrive à un endroit de changement, je préciserai. Parce que les chakras, on en a. Ça va? Oui.
Tu n'as pas ceux qui sont pas vraiment au bon endroit. Tu n'as pas dit à quoi ils sont liés. Derrière les yeux ou les yeux. Oui.
les yeux.
Le chakra des yeux et clavicule.
Chakra de la clavicule.
Il y a une traversion ici.
Ah ben non, mais c'est pas là. C'est plus un organe, mais quelque chose à voir.
Chakra, il est où le chakra des yeux?
Bon, allez, je crois qu'on va lâcher. Je vais vous donner la suite après. Parce que c'est trop. Oh, c'est... On fait la trop, vous prenez la trop.
On a envie de mettre un
quoi? Oh, il y a une petite question d'Annick.
Pour ceux qui veulent en fait dans ce genre imprimé, donc ceux qui ne suivent pas un CIP 5 qui habitent en France, je les amènerai demain. Ceux qui, dans la mesure du possible, j'en amènerai d'autres. Mais ceux qui suivent CIF 5, je pourrais les amener ici à l'école. Et ceux, je pourrais, comment je vous amènerai, donc, ce sera priorité à ceux qu'on ne voit pas et qui n'ont pas CIF 5. Ça va ?
Parfait. Et le prix est toujours de 15 euros ou ça a augmenté, ça a doublé ?
15 pour les deuxièmes.
Oui, et les deuxièmes classes.
On va acheter 3 euros là.
On ne porte pas les mêmes culottes, nous. C'est le jour des culottes, les... Non, mais c'est parce que, avec l'histoire des 12 salopards que Dominique racontait, nous, on voulait s'appeler les 12 salopes et on avait des culottes, tu vois.
Mais nous, plus salopes que vous, hein.
Et c'est... Quand on a vu des culottes...
Tu veux tester?
Si tu savais sur quoi on teste. C'est comme moi, j'ai été voir Piqué quand j'habitais à Ixelles, j'ai été voir Charles Piqué, il est super, c'était devenu un ami, mais on était allés souper ensemble, et lui, je lui expliquais la kinésiologie, et donc tu testes des muscles, je dis, bah oui, tous les muscles.
C'était dur, c'est clair.
Mais lui, il était porté sur la tête.
J'allais dire.